Oh, qu'est-ce que t'as fait alors? Le poisson qui s'est pris, tu l'as pas eu.
Le poisson qui nous a mordu, il a foutu une embrouille de folie et il s'est barré.
Tu es fatigué?
Et le staff, il ne peut pas se défaire. Voyez le staff. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les rouges.
En direct du studio 511, Qui est tout rouge, une émission réalisée par Benjamin Riquet, assistée de June Loper, avec Arnaud Caillé à la technique aujourd'hui.
Cette semaine, on vous emmène du côté des Calanques. Ah, c'est beau les Calanques, mais le fond de la mer est rouge, et la colère aussi, pour dénoncer les tonnes de déchets toxiques que l'usine Alteo déverse dans la mer et la pollution de l'air aussi. Riverains, pêcheurs et écologistes se mobilisent. Bourouge, make our Calanque great again, une opération de greenwashing qui ne trompe personne.
La plupart des canyons sur la planète sont classés zones remarquables, sont des zones protégées au patrimoine mondial de l'UNESCO, etc., etc. Et nous, non, nous, à la France, on en a fait une poubelle.
Viens mettre un carton rouge aux pollutions de Bourouge.
Il faut stopper cette saloperie.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Ah, il est remonté, Gérard Carodano, pêcheur professionnel à La Ciotat et militant de longue date contre les rejets toxiques de l'usine Alteo. Parce que le parc national des Calanques, qui s'étend sur 20 km de Marseille à Cassis, c'est un véritable petit coin de paradis, veiné de couloirs d'eau turquoise. Et c'est sûr que sur la brochure, ça fait envie. Mais si ça peut le rassurer, Gérard, il n'y a pas qu'en France qu'on transforme les petits coins de paradis en déchetterie toxique. Aux quatre coins de la planète, les pollutions industrielles contaminent durablement les sols, empoisonnent ouvriers et riverains et déciment faune et flore. Il y a Monsanto à Anniston, en Alabama, où le PCB déversé par la firme américaine a transformé la petite bourgade modèle en cauchemar toxique. Il y a le Triangle de la Mort en Campanie, où le trafic des déchets met en danger la santé de 2,5 millions d'habitants. Il y a la province d'Alberta, au Canada, défigurée par l'exploitation de sable bitumineux. Il y a le Rio Doce, le fleuve de la mort au Brésil, chargé de boues toxiques. Et je pourrais continuer longtemps comme ça à vous égrener la liste des paradis perdus, des zones sinistrées sur l'autel du profit. Mais parfois, quand même, les habitants arrivent à faire éclater la vérité et à obtenir réparation, même si le mal est fait. Et dans les Calanques aussi, la population se mobilise pour faire cesser le scandale des Bourouges, Antoine.
Cap au sud de la France, donc à Marseille, La Ciotat Gardanne, tout en train s'il vous plaît, pour faire le point sur cette sale histoire de pollution par les Bourouges, déchets de l'usine de production d'alumine de Gardanne. Mais le tribunal administratif de Marseille, en juillet, a prescrit une nouvelle étude d'impact et a décidé de limiter donc les doses d'émissions dans la Méditerranée. On ira aussi à la Seine-sur-Mer retrouver les militants écologistes de l'association ZEA de protection des mers qui organise un concert manifeste colère rouge à partir de 18h au lieu dit Les Sablettes à la Seine-sur-Mer. Ça urge, go fast!
Alors, patrons d'usines et pouvoirs publics font tout pour dire que tout a changé. À coup d'opérations de communication et de greenwashing, ils ont repeint la façade. Et c'est pour démonter ce discours, Guive, que tu as fait appel à Maxime Combe.
Oui, Maxime Combe, il est économiste et suit les questions environnementales avec attaque. Alors qu'il était justement de passage à Marseille, je l'ai appelé parce que ça fait des décennies que des voix s'élèvent, disait Antoine, contre l'usine et ses bouts rouges. Mais aujourd'hui, les beaux discours great again des politiques, tout comme les messages verdis à souhait des multinationales, cachent mal la pression des impératifs économiques sur les normes environnementales. Pression dont la démission de Nicolas Hulot est un cuisant rappel.
Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, Bourouge, make our Calanque great again, c'est parti.
Cette pollution sera incontrôlable. Il s'agit d'un précédent.
Des fois, je me pose la question si les politiques ont des petits-enfants, des enfants et des petits-enfants.
C'est le village des Baux qui a donné son nom à la bauxite, matière première de l'aluminium.
Il n'y a pas eu d'étude d'impact sérieuse de fait. Et ça, c'est pas normal. Quand on dépose 400 000 tonnes de boue au-dessus de la tête de il y a des écoles, il y a des écoles qui ont été impactées, là, je veux dire.
La porte s'ouvre à toutes les pollutions industrielles massives, car enfin, qui viendra interdire à une société de rejeter à la mer son déchet alors qu'une autre société vient d'avoir l'autorisation de faire ce rejet qui est pour elle une économie?
Bien, dans certaines zones côtières, elle est très malade. Et la maladie s'étend non seulement avec l'augmentation de la population, mais avec le développement inconsidéré de l'industrie. Quand je dis développement inconsidéré de l'industrie, je ne suis pas contre le développement de l'industrie, je voudrais qu'on le fasse proprement au lieu de le faire n'importe comment.
Aujourd'hui, on n'est pas à 50 ans en arrière. Aujourd'hui, il n'y a plus le commandant Cousteau qui les a aidés à l'époque. Mais à l'époque, ils n'avaient pas le recul, donc ils ne savaient pas que ça allait atteindre ces niveaux. Ils nous ont inventé sur des cartographies bidons de l'époque.
Nous avons figuré sur ce carton les possibilités d'utilisation arbitraire pour une centaine d'années. Ainsi que vous le voyez, nous occupons extrêmement peu de place dans cette immense fosse.
Ils ont mis des petits cartons au milieu d'une grande maquette. Ils ont dit voilà ce que ça fera au bout de 100 ans. C'est pas du tout ça.
Aujourd'hui la mer est rouge. Aujourd'hui la mer bouge. Aujourd'hui la mer bouge.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Qui vont-ils? Comme un bruit qui court. Sur France Inter.
Hashtag comme un bruit.
Voie 3, le TGV 6113, à destination de Marseille-Saint-Charles, va partir. Attention au départ.
Oui, bah, je suis juste là et je pense que je te vois, t'as un sac jaune ?
Ouais.
Bah, je suis là, la voiture blanche Peugeot. Ah ouais,
super.
Dorothée, voilà, Piloncelli. Ouais. Moi, quand je commençais à mobiliser il y a un an et demi, j'avais pas réalisé que c'était aussi compliqué, quoi. Moi, je découvre les causes environnementales, c'est des choses... je suis vraiment très... j'ai l'esprit, mais je me suis jamais investie. On doit, en tant que citoyen, y aller, quoi. Sinon, on n'est pas protégé. Voilà, donc on se bat. Moi, c'est vrai que c'est Olivier qui a été à l'origine de ma prise de conscience par la pétition, le documentaire et surtout ce qu'on vit au quotidien dans notre zone, là.
Alors, parce vous habitez où, vous, exactement ?
Bouc-Bel-Air. Alors, Bouc-Bel-Air, c'est vraiment un village qui est entre Aix et Marseille, mais plus près d'Aix. Et qui est tout près de Gardanne, à vol d'oiseau, on est à 2 km de Gardanne, 3 km, je pense, à vol d'oiseau. Hein. Donc la colline où est Manche-Gary, le site en question, c'est vraiment la colline qui fait la liaison entre Bouc-Bel-Air et Gardanne. C'est la zone verte du coin, mais qui n'est plus zone verte, c'est zone rouge, quoi. C'est vraiment ça. C'est les gens qui courent, mais il y a des gens pas conscients de tout ce qui se passe, qui continuent. Hein. Oh, j'ai passé par là, on va aller directement vers... c'est vélos, des VTT, des gens qui font du cheval. Et puis, pas conscient de cette zone qui est en train de prendre une ampleur qui bouffe notre espace au quotidien et qui, depuis le mois d'avril, est rentrée chez nous. Parce qu'en fait, déjà, ça rentrait. Moi, j'avais déjà remarqué dans nos jardins, sur nos puits de fenêtres, cette poussière rouge qui se déposait. Dans les piscines, on a tous des piscines parce qu'on est dans des régions... Ben, au fond, une poussière rouge aussi... Les rejets liquides continuent à aller en mer et tout ce qui est solide, avec leur joli mot, la boxaline, est maintenant là, à terre. On a des petits troubles pour l'instant, on a des allergies, on sent que, on est une région polluée, donc de toute façon c'est sûr qu'il y a multifacteurs, mais ça en rajoute une énorme couche. Il y a de l'arsenic, il y a de l'aluminium, c'est radioactif, c'est pas négligeable, je veux dire. La CRIRAD a fait des essais, c'est radioactif. Bon. Tout ça, bon, on a enterré M. Caldi qui était riverain, le premier qui s'est bougé dans la zone. Ça, c'est une des raisons aussi, j'ai oublié quand même, c'est vachement important de le dire. C'est quand j'ai vu, il y a un an et demi, deux ans, j'ai pris conscience de ça et j'ai rencontré M. Caldi avec Mme Montato et je l'ai vu, mais avec son cancer, ses cancers multiples, partout il y en avait. Il est malade, bien malade, il est vraiment en mitoyenneté de zone, hein. Il est tout près de la zone de Manche-Gary. Mais vraiment, ça m'a touchée. Je me disais, mais ils se battent à deux tout seuls. Ils allaient en comité de suivi. Et personne à Bouc-Bel-Air ne bougeait. Hein. Le maire, il faisait des soi-disant comités. Personne n'était au courant. Tout est fait pour que les gens ne soient pas au courant.
Vous vous êtes arrivé ici quand? Alors, vous êtes installé quand ici, Dorothée?
Ben nous, on a fait un mauvais choix, hein, je me dis. On venait du Luberon et pour vraiment un côté pratique, on s'est dit, tiens, entre Aix-Marseille, Bouc-Bel-Air, on s'est dit, tiens, c'est un village, ça peut être sympa, avec des activités, on a 3 enfants, donc c'est les écoles pas loin, tout ça. On a fait construire, il y a 16 ans, on a fait construire, et maintenant je me dis, c'est vraiment la zone où il ne fallait pas faire construire.
D'accord, parce que ça s'est urbanisé autour de cette décharge, quoi, hein, c'est ça.
Ça s'est urbanisé, et il y avait déjà des maisons. Quand j'ai vu monsieur le député Jean-Michel Lambert hier sur le marché de Gardanne, je me suis dit, mais comment on peut laisser faire ça, quoi? Il y a des écoles, des maisons, c'est urbanisé. Mais oui, mais ça fait 100 ans qu'on fait... Enfin bon, bref, lui aussi, c'est un cas... Donc, c'est urbanisé et on continue. Parce que monsieur le maire de Bouc-Bel-Air dit qu'il ne donne pas de permis de construire dans ces zones-là. Mais ça aussi, gros mensonge, ça continue autour de chez nous. Il y en a plein, des maisons qui se construisent. Donc, maintenant, stop.
Ouais, ils vont nous faire encore démissionner Nicolas Hulot une deuxième fois s'il continue.
Ouais.
Il va partir à Ushuaïa.
Eh oui, c'est peut-être la solution.
J'ai un peu d'influence, j'ai pas de pouvoir.
Nicolas
j'ai
Hulot,
pas les moyens.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la réunion à l'Elysée avec en présence d'Emmanuel Macron et des représentants des chasseurs?
Oh, je vais vous donner, ça va paraître anecdotique. Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui achevait de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
Ça veut dire quoi, Dorothée Pinoncelli? C'est-à-dire que c'est l'industrie, c'est l'intérêt industriel qui prime?
C'est les emplois, le chantage à l'emploi, toujours. Ils ont rempli des vallons, maintenant ils font des montagnes. Et qu'on est dans une région de vent. Un coup c'est Mistral, très fort. Un coup c'est Vendeste, de plus en plus fort. C'est ce qui arrive. Hein. Et ben, un coup c'est nous qui recevons par Vendeste, Bouc-Bel-Air. Et un coup c'est les gens de Gardanne qui reçoivent ces poussières toxiques.
Là, il y a eu quand même une décision de justice, hein, le tribunal administratif, oui. Quand même, qui a un peu retoqué ces autorisations complètement aberrantes qui sont données.
C'est vraiment c'est le côté positif actuellement. Bon, après, depuis qu'il y a eu cette mise en demeure d'Alteo là, au mois d'avril, quand il y a eu ces envolées de poussière rouge, gros vendesse, 90 km/h, et là, c'est incroyable. En fait, il y avait de la poussière rouge, un nuage rouge qui a Mangegary est là-bas.
Ça y est, on est à Bouc-Bel-Air
voilà,
ici. Hein,
là, ouais. C'est Bouc-Bel-Air. Là, c'est la Nationale 8 qui fait Marseille-Aix. Et puis, le village est là-haut. Alors, depuis, comme ils ont été mis en demeure, ils ont fait des petits investissements pour végétaliser. C'est-à-dire, pendant tout l'été, ils ont déposé du compost. Donc, ça sentait très fort. Ils arrosent. Ils ont un arrosage. C'est leur manière de faire face aux poussières. Il n'y a pas eu d'étude d'impact sérieuse, de fait. Et ça, c'est pas normal. Quand on dépose 400 000 tonnes de boue, au-dessus de la tête de il y a des écoles qui ont été impactées là, je veux dire. Il y a des écoles partout. Il y a un lycée agricole derrière là, qui prend par Vente du Nord, c'est eux. Il y a un lycée privé là, école maternelle pour collège aussi là. Et il y a les écoles une petite école publique de Bouc-Bel-Air qui la cour était rouge au mois d'avril. Hein. Les enfants étaient avec les mains rouges et les pantalons rouges. Bon voilà.
C'est dommage parce que c'est joli, hein. C'est quoi? C'est la garrigue ici?
C'est la garrigue, c'est, ouais, la, garrigue, c'est hein. la colline. Alors moi je sais pas trop où je vais me garer. La zone de Mangegary, côté Bouc-Bel-Air.
C'est ça. Ouais,
côté ouais. Bouc-Bel-Air. Après, il y a tout un chemin qui fait toute la colline de Bouc-Bel-Air, là, et qui rejoint Mangegary par là. Oui, il y a des chevaux qui passent par là.
Il y a des chevaux qui passent par là, ouais. C'est joli ce sentier là.
Oui, il y a quand même. C'est un site. Il y a du charme, quoi.
Quand on ne sait pas ce qu'il y a à côté, quoi, en fait, hein, c'est ça.
Voilà. Voilà, quand on ne sait pas ce qu'il y a à côté. Ah oui, la chasse aussi, c'est super. Ça, c'est un truc qui est très sympathique, l'ouverture de la chasse depuis hier. On risque notre vie, hein.
Allons-y.
Ce sont souvent des chasseurs qui sont d'Alteo. On risque deux fois notre vie. Parce que s'ils savent qu'on vient pour parler des boues rouges, pas pour les boues rouges...
On devient des cibles.
Attention, Antoine. La vie est très risquée à Bouc-Bel-Air. À Bouc-Bel-Air. Non, je me rappelle que c'était au début, je découvrais tout ça. Et je suis tombée sur un chasseur. Et puis là, je lui dis, mais vous n'avez pas trop vu qu'il y a des gens, un groupe, qui vient visiter le site de Mangegary-les-Bouges?
Oh, qu'est-ce que j'ai... Là, j'ai vu ses yeux. Mais qu'est-ce que t'as, toi? J'ai dit, oh la Dorothée, ne surtout pas en dire plus. Tu sais que ça fait 3 générations qu'on se nourrit grâce à ça. Mon père, il avait 3 enfants, et c'est grâce à ça. Bon. Donc là, je me suis dit, bon, allez. Et ton portable, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas les bourreaux? Bon, bref. Donc, j'ai senti qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait.
Parce que c'est une propriété privée, effectivement. Oui, alors, Alteo, propriété privée, site de Manche-Gary. Installation classée pour la protection de l'environnement. Ben, ça va, ICPE, stockage de résidus de minéraux non dangereux.
C'est non dangereux, oui. Mes enfants m'ont appris que quand ils étaient ados, ils venaient faire du vélo et jouer dans la boue.
Dans la boue rouge?
Dans la boue rouge. C'est très mal protégé. Voilà ce que c'est la protection de Manche-Gary. C'est un espèce de barbelé qui n'a jamais changé depuis des années. Parce qu'en fait, ça, c'est
ça y est,
c'est,
on aperçoit.
Ça, ouais. C'est le bassin numéro 7. C'est le gros problème qu'ils ont actuellement. Leur bassin numéro 7, il n'est pas étanche.
Donc là, on voit une canalisation qui arrive en face, là-bas.
Il y a une canalisation et il y a des espèces de jets. C'est leur façon de mouiller en permanence pour pas que ça se transforme en poussière. En plus, en mettant de l'eau dessus, ça veut dire que ça passe dessous. Et puis, il y a la Luine, un petit ruisseau qui passe pas loin. Et nous, on voudrait savoir tout ça. Où va cette eau? La nappe phréatique n'est pas loin. Donc, ouais. Non, c'est pas joli.
Au milieu du bassin, là, on voit quand même des petits arbustes qui sont complètement cramoisis. Là,
ouais, ils ont l'air bien
au milieu,
en forme,
là, ouais.
Ils ont l'air d'avoir aimé d'être les pieds dans la boue rouge. On peut imaginer. C'est un peu ce que les fonds marins ont subi pendant plus de 50 ans. Ben, on fait la même chose maintenant à l'air libre. Luynes, Bouc-Bel-Air, Gardanne et des maisons tout autour. Est-ce que tu veux voir les filtres presse?
Ah ouais, je veux bien. Alors, les filtres presse, on les voit, d'accord.
Voilà, c'est deux machins.
Donc, c'est une installation industrielle qui est effectivement toute rouge, couleur rouille, quoi, hein, c'est ça.
Et dans les bureaux, nous, quand on est rentré à visiter, ils avaient fait le ménage rapidement. Donc, on voyait les coups de chiffon. C'est ça, poussière.
Le principe en est simple. Les coups entrent dans cette sorte d'accordéon géant. Lorsque le soufflet se resserre, l'eau est exprimée. Les déchets de bauxite tombent alors sous forme de galettes friables, la bauxaline.
Grâce à ce filtre presse, on va pouvoir traiter à peu près 120 000 tonnes an de bauxaline, donc de résidus que l'on va pouvoir soit stocker, soit commercialiser sous le nom de bauxaline.
Comme un bruit qui court!
Donc les fameux filtres presse magiques, quoi, donc qui transforment les boues rouges en bauxaline, là, c'est donc un nouvel or vert, quoi. Hein.
Voilà, rouge.
Or rouge.
Donc ils compactent et
mais
après.
Mais c'est vert quand même.
Oui, le but c'est quand même de devenir vert. Peut-être qu'un jour ils vont réussir à avoir cette belle bauxaline sur, je sais pas, on se disait peut-être des terrains de tennis ou autant, tout est possible. Hein. La couleuvre, je pense que ça doit être à cause de ce nom qu'ils ont donné à Manche-Gary. La couleuvre, hein. Ils nous font avaler plein de couleuvres. Pour nous faire croire que c'est génial, une économie circulaire. On récupère le déchet et c'est tout le monde y gagne en fait. Enfin, je pense que c'est surtout eux qui y gagnent, pas nous. Pas notre santé, pas la Terre, pas la planète, pas nos enfants. Donc, maintenant, stop.
C'est par le lobe de l'oreille qu'on attrape les canailles. C'est par le lobby qu'on attrape l'élu. La démocratie n'est qu'un hoax sans braille. Tant qu'on sépare pas nos lois des lois de la thune. On nous fait voter comme si le peuple décidait. Mais à Washington DC ou pour l'Europe à Bruxelles, les couloirs sont pleins de ces agents des firmes qui tranchent un peu sur tout ce qui va baliser nos vies. C'est dit no, 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 agences trinquent de langue avec les députés, fournissant textes de loi, un peu tout l'hémicycle. Les lobbies, c'est les Jésus et les élus des apôtres. Leur parole d'évangile devient loin de ces quatre. Alors maintenant, on s'attaque à quoi les causes? On cause encore des causes où on est prêt à en découdre.
Viens mettre un carton rouge aux pollutions de boue rouge.
Prochain arrêt, la Seine-Sifour. Alors là, On est où ici alors, Olivier Dubuquois?
Là où on va organiser la soirée du 29 septembre. Cette grosse mobilisation nationale qui regroupera aussi bien des concerts que des rencontres. Et donc une soirée militante qui va permettre de mettre un énième focus sur les pollutions de Bourg-Rouge. Et voilà, on espère qu'il mettra une pression sur le gouvernement actuel. Parce qu'on a peu d'espoir pour l'instant en ce nouveau ministre. Et on espère vraiment qu'on va réussir à remobiliser sur cette pollution pour avoir gain de cause et pour y mettre fin définitivement, plus rapidement possible. Pour l'instant, on s'est fixé l'horizon 2021, mais on espère que ce sera avant.
Il est où le bout de ce tuyau là qui arrive du coup de Gardanne et de Manche-Gary, donc de cette décharge à l'air libre là?
Alors ça, en fait, il suit le trajet d'une ancienne voie ferrée qui s'appelle la voie de Valdonne. Et après avoir serpenté une quarantaine de kilomètres, parce qu'en tout il doit faire une cinquantaine de kilomètres, il se jette au niveau des Calanques de Cassis, un endroit magnifique, à Port-Mioux exactement. Et il épouse le fond du canyon qui progressivement descend jusqu'à 320 mètres. Et à 320 mètres de profondeur, il y a l'émissaire du Roger. Et ça crache à cet endroit-là depuis 1966. Donc de 1966 à fin 2015, c'était la totalité des Bourg-Rouges qui étaient rejetés dans ce canyon et qui ont tapissé, le canyon entre moins 150 mètres et moins 600 mètres principalement, parce que le canyon fait 2000 mètres de profondeur. Mais vu que ces Bourg-Rouges ont une particularité, c'est qu'elles sont composées énormément de métaux lourds, en fonction de la courantologie, des courants, etc., on a une remobilisation régulière de cette pollution, notamment des métaux lourds, qu'on peut retrouver un peu partout en Méditerranée. Donc la pollution localement et au niveau du canyon de Cassidène, mais en fait, les métaux lourds de l'usine de Gardanne, on les retrouve partout en Méditerranée.
Regarde Saint-Charles, j'ai acheté ça, regarde. Donc le supplément de la Provence, avec une magnifique photo donc, du commandant Cousteau, hein, éternel défenseur des milieux marins.
C'est magnifique.
Hein,
c'est magnifique.
Ça vous parle, ça, hein?
Ah ben,
à vous tous, là, et à toi notamment. Hein.
C'est ça.
Comment réécrire Olivier Dubuquois, parce qu'effectivement, donc, c'est un peu un des précurseurs du greenwashing.
En fait, ouais, ça fait partie des stratégies en fait, de désinformation des industriels qui ont des activités extrêmement polluantes. Et ça a commencé tôt, hein, mais c'est quelque chose qu'on retrouve chez les cigarettiers ou chez d'autres industriels. Là, en l'occurrence, du côté de Pechiney, ils ont eu une stratégie qui était juste assez génial, c'est qu'ils se sont dit qu'ils allaient associer un homme vraiment emblématique sur la mer qui est Cousteau, et ils lui ont demandé de venir faire en fait des tests, c'est-à-dire qu'ils ont pris des Bourg-Rouges à d'autres endroits, dans d'autres calanques, plutôt du côté de Niolon et autres, quoi. Ils ont balancé en fait des Bourg-Rouges en profondeur, et ils lui ont demandé en fait si les Bourg-Rouges risquaient de remonter en surface, parce qu'à cette époque-là, en fait, ce qui était vraiment, la préoccupation principale, c'était est-ce que ça va impacter à la fois l'industrie de la pêche et est-ce que ça va impacter le tourisme. Et lui a conclu qu'il n'y avait aucune chance que ces Bourg-Rouges soient remobilisées et qu'elles remontent en surface, et en plus qu'il n'y avait aucun impact, on va dire, sur la santé et aucun impact a priori sur l'écosystème, puisque lui disait que c'était aussi un simple sédiment comme Pechiney. Donc ça a été une sorte de blanc-seing, et d'une certaine façon ça a été vraiment une caution énorme auprès des Français. Pechiney était ravi d'avoir...
Ravi, en fait, en même temps, elle finançait des études donc,
de la Calypso. Ouais.
La Calypso, exactement. C'est-à-dire, c'était un financement de la Calypso. Exactement. Par Pechiney. Et du coup, le commandant Cousteau, par ce biais-là, donc, alimentait la controverse scientifique. Quoi.
En fait, c'est exactement ça, mais il a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, en fait, Cousteau, par exemple, sur toutes ses expéditions, a été ponctué de recherche des hydrocarbures offshore, c'est-à-dire pétrole et gaz en mer. Et donc, il donnait des informations capitales pour les pétroliers. Et donc c'est ce qui lui permettait de financer ses expéditions. Donc ce qu'il a fait là avec Pechiney, il l'avait fait aussi avec toutes les industries extractives. C'était un modèle économique.
Donc là sur la double page, supplément de la Provence, les gens du Sud, ouais. Le magazine de ceux qui font la Provence ou qui la détruisent, hein, selon. Juste l'explorateur des grands fonds, star planétaire de la défense des mers. C'est quand même costaud, quoi.
Ce qui est aussi important de voir là sur cet article, là, ce que je suis en train de découvrir, c'est que en fait ils sont en train de faire une sorte de mythologie ou un mythe de tous les explorateurs et de tous les gens de la mer, et ils y associent à Cousteau Florence Artaud. Et Florence Artaud était plutôt de notre côté. Hein. Et c'était une des premières militantes qui est venue justement et qui nous a rejoint dès 2010-2011 pour se battre contre les Bourg-Rouges. Et elle n'a eu de cesse justement à chaque fois de nous soutenir dans tous nos combats. Alors que Cousteau, s'il avait été là, il aurait été de l'autre côté. Même à l'époque où Cousteau était plutôt du côté de Pechiney, Il y a un homme qui s'est dressé contre lui.
Voilà, donc Alain Bombard, qu'on peut voir dans un documentaire que tu as fait, hein, donc qui s'appelle Zone Rouge.
Cette pollution sera incontrôlable, même si ceux qui la font affirment et croient que le produit qu'ils rejetteront dans la mer sera constant et ne changera jamais. Nous n'en avons aucune certitude, il s'agit d'un précédent. D'un grave précédent, la porte s'ouvre à toutes les pollutions industrielles massives, car enfin, qui viendra interdire à une société de rejeter à la mer son déchet alors qu'une autre société vient d'avoir l'autorisation de faire ce rejet qui est pour elle une économie.
Zone rouge, et où tu dénonces effectivement cette pollution à l'initiative donc de Pechiney.
Après il y a eu Alcan ou Alcan, ça dépend comment tu le prononces, qui a été tout de suite racheté par Rio Tinto, donc c'est devenu Rio Tinto Alcan, qui lui-même a été racheté en 2012 par Alteo. Enfin Alteo, on va dire, c'est plutôt l'opérateur, c'est l'industriel. Mais le propriétaire principal derrière cette activité, c'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle HIG. Ils appellent ça du private equity. En gros, c'est un groupe financier qui vient sur une activité qu'il ne maîtrise pas forcément, là, donc sur une activité industrielle, et qui se donne 5 ans, 6 ans pour essayer de trouver des nouveaux marchés et après revendre cette activité, soit aux gens qui l'auront cédé, soit à d'autres. Et là, on arrive en bout de course. Donc c'est ce qui me fait penser que, vu qu'ils ont vendu les 3 autres sites d'Alteo, je pense qu'ils vont revendre à hauteur de 2021, on va dire, en termes de date, le site de Gardanne. Soit ils le revendent, soit il va être, on va dire, fermé, quoi, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour ça qu'on pense que la date de 2021 sera peut-être une date de fin pour cette pollution. Alors, je m'appelle Olivier Dubuquois, de formation, je suis géographe, et puis j'ai un poste d'universitaire. Bon, là, je me suis mis en dispo pour une année, mais sinon, voilà, je bosse à la fac. Et l'autre moitié de l'année, je suis militant écologiste, donc plutôt engagé sur des combats liés à la protection de l'océan et du climat. Et du coup, depuis quelques années, avec des copains, on s'est spécialisé sur la lutte contre toute l'exploitation des hydrocarbures en mer. Donc, que ce soit des permis ou que ce soit des grands projets inutiles, enfin tout ce qui est lié, on va dire, aux hydrocarbures en mer et qui ont un impact à la fois sur l'écosystème océanique, mais aussi sur le climat, bien sûr. Donc voilà. Après, on est aussi très investi sur une lutte liée à une pollution qui est sur notre territoire, qui est celle des Bourrouges, mais aussi bien sur la partie maritime que sur la partie terrestre. Au début, on était structuré en collectif, c'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question d'avoir une association ou quoi que ce soit. Chaque fois, chaque combat spécifique, on montait un collectif. Au départ, c'était presque un coup de gueule. On s'est dit, on va revendiquer l'océan mondial, aller planter un drapeau en mer pour bloquer justement la progression de tous les États-nations qui revendiquent ce qu'on appelle des zones économiques exclusives, c'est-à-dire des portions de mer qui sont annexés pour ce qui est de l'exploitation des ressources. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer ça? On peut juste opposer à ces États-nations une autre nation, mais pas un État, hein, une nation qui serait axée plutôt sur les logiques de commun, c'est-à-dire faire primer tout ce qui est de l'ordre de l'usage plutôt que de la propriété. Donc on a créé ce mouvement Nation-Océan avec une grosse déclaration universelle de l'océan, un plaidoyer qu'on a rédigé avec plusieurs juristes qui faisaient partie de l'ASSO et puis des extérieurs. Et puis on a été assez surpris parce que ça a été vachement bien accueilli, ça a été repris un peu partout. On a présenté ça au Parlement européen, il y a des mairies qui l'ont signé. Et voilà, fin 2015, on a continué à faire ça, 2016 aussi. On était plus pris par les actions de terrain. Et 2017, du coup, on a structuré tout ça sous une association qui s'appelle ZEA. Et Nation Océan, c'est devenu une campagne de ZEA. Et on continue toutes ces choses-là. Pour lancer le mouvement en 2015, on avait fait un très très gros concert. C'était vraiment lié, on va dire, à tous les enjeux liés à l'océan et au climat, et en 2015. Et cette année-là, 2018, ça va être lié à un combat historique qu'on mène depuis des années, c'est celui contre les Bourrouges, d'où le nom de la soirée, Colère Rouge, et d'où toute la programmation dont on va pouvoir parler.
Viens mettre un carton rouge aux pollutions de Bourrouges.
Oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est...
Samedi 29 septembre, viens mettre un carton rouge aux pollutions de Bourrouges. En participant à la soirée de soutien Colère Rouge organisée par ZEA à l'espace Chapiteau des Sablettes à la Seyne-sur-Mer. Concerts et interventions militantes, Gary Gréou, Massilia Saint-System et Moussé Hakim de Zebda, No One is Innocent, Zoufri Maracas, DJ Gambit et Mauro Mancebo. Bar et restauration sur place, tarif 20€, billetterie point habituel. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Alors, Olivier Dubuquois, toute cette histoire longue a été émaillée d'arbitrage politique, dernièrement même.
Une de nos premières victoires, ça a été justement et au tribunal administratif et à la CADA, c'est on a demandé le compte-rendu de la réunion interministérielle qui avait eu lieu entre, a priori au début on pensait juste Valls et
Manuel Ségolène. Valls qui était Premier ministre.
Exactement, et Ségolène Royal qui était de notre côté, qui s'opposait fortement...
Ministre de l'écologie à ce moment-là.
Exactement.
Donc c'était en 2015.
On a pu voir sur cette note... qui avait vraiment eu un arbitrage de la part de Valls à l'époque Premier ministre, entre son ministre de l'époque Emmanuel Macron et Ségolène Royal. Et donc dans cette note, on voit très bien que Emmanuel Macron ne parle que de l'emploi, il ne fait aucunement allusion à la santé, à l'impact environnemental et autres. Quoi. Il dit qu'il est juste impensable de pouvoir fermer cette usine et cette activité, ou tout simplement de mettre en place un plan de transition, parce qu'il veut absolument sauvegarder l'emploi, et Valls lui donne raison, contre Ségolène Royal. Suite à cette décision de, on va dire de Valls, de faire primer l'emploi sur l'environnement.
Sur les conseils donc d'Emmanuel Macron.
Ouais. Exactement. Nous, on a continué bien évidemment à la fois la mobilisation citoyenne et puis à développer, on va dire, une forme d'expertise puisqu'on a fait plusieurs analyses scientifiques prouvant la toxicité de ces produits et on a continué aussi à avoir une stratégie juridique. Et donc, on s'est à ce moment-là attaqué à deux choses, c'est-à-dire aux deux arrêtés, notamment celui de décembre 2015, le 28 décembre exactement, qui concerne le rejet en mer de la partie liquide des Bourouges. Et on s'est attaqué aussi après en 2016, l'arrêté de 2016, qui concerne le rejet de la partie solide des Bourouges en terre, à terre du côté de Manche-Garry. Et sur un des deux recours, on a déjà été... auditionné et on a eu le jugement. Un jugement qui a été en partie favorable, on va dire. C'est une victoire d'étape, puisque donc on a réussi à raccourcir le délai dérogatoire de rejet en mer de la partie liquide des Bourouges à 2 ans, donc 2019 au lieu de 2021. Et on a réussi à faire prendre en compte, on va dire, la totalité de la pollution, parce que jusqu'à maintenant, l'industriel disait qu'en gros, plus de 99% de la pollution était gérée, puisqu'il se concentrait uniquement sur les rejets en mer. Et en gros, la partie stockée à terre, qui était les 99%, on va dire, de cette pollution d'un point de vue solide, se retrouvait à terre, mais il disait qu'en gros, elle n'était plus existante, puisque la pollution était gérée. Donc nous, on a fait en sorte justement que cette pollution soit prise en considération dans son ensemble, parce que c'est pas en déplaçant le problème qu'on gère une pollution. Et c'est bien ce que veut faire Alteo, c'est-à-dire à chaque fois déplacer le problème, c'est-à-dire soit rejeter en mer, soit dire qu'en mer c'est réglé et le rejeter à terre, soit dire que c'est de la valorisation et donc diluer leurs produits sous différentes appellations commerciales comme la bauxaline. Mais c'est toujours la même stratégie pour eux, c'est diluer cette pollution alors qu'elle est impactante et pour ne pas en assumer les responsabilités.
J'aurais pu vivre au pôle Nord, du côté d'Aix ou d'Avignon. J'aurais pu vivre au pôle Sud, habiter Bandol ou Toulon. J'aurais pu vivre en Alaska, à Katmandou, à Bornéo. Ouais, mais j'habite à la Ciotat, avec la mer et les bateaux.
Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Gérard Carodano, poisson invertébré de Méditerranée. N'hésitez pas à me laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. Sorry, I can't speak with you now. Please leave your message after the tune. Bye.
Il y a un mec qui s'appelle Gilles Morgan qui arrive avec un parterre blanc.
Ouais.
C'est le mec qui fait encore oxygène là. Il arrive d'ici un peu rouquin là. Il vient.
Salut Antoine.
Il vient chez moi, il me mène des raccords, il se casse.
Il va pas tarder, il vient de m'appeler. Hein.
C'est la course?
Non, mais faut respecter le bien-être des animaux là. Et voilà, c'est un métier quoi, c'est pas un exploit, mais c'est un métier. Et on est content quand ça arrive et qu'on reçoit les news du client qui nous dit 0% de casse, tout va bien quoi, les poissons se nourrissent déjà, et ça c'est du bon boulot quoi.
Parce que vous, Gérard Carodano, vous êtes un pêcheur particulier, c'est-à-dire que vous pêchez des poissons vivants pour les envoyer dans le monde entier, c'est ça?
Surtout en Europe, quelquefois extra-Europe. Mais donc je pêche beaucoup moins de poissons qu'à la traditionnelle, parce que la plus-value, elle est faite sur le fait qu'ils sont vivants, quoi. Les poissons, c'est sans commune mesure. En plus, les aquariums sont des vecteurs de communication avec le public. Je connais aucun aquarium, moi, qui ne défend pas la mer et les océans, quoi. C'est en montrant les belles choses qu'il y a dans la nature, dans la mer, et qu'on sensibilise les gens à la protection de la mer. C'est pour ça qu'on se bat contre toutes les nuisances marines, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient... qu'elle soit de toutes sortes de provenance, on essaie de sensibiliser le public en leur montrant que c'est très beau ce qu'il y a dans la mer et que c'est grâce à la mer qu'on survit aussi. Donc c'est un boulot très intéressant, quoi. De toute façon, on est hors la loi sur ce sujet.
La France est hors la loi, c'est ça,
ouais. La France est hors la loi, ouais, complètement. Ben, la France, elle a signé le traité d'Athènes, mais il y a surtout la convention de Barcelone qui a été ratifiée en 1986 par la France, qui interdit complètement les rejets industriels. Entre-temps, depuis, en plus, on est dans un parc national des Calanques. C'est le seul parc national, le parc national des Calanques, qui décrédibilise tous les autres parcs sur la planète, dans la mesure où on y rejette des produits toxiques industriels en son plein cœur, quoi. Où vous avez vu jouer qu'on balance des résidus toxiques. Alors on nous l'a fait à l'envers quand même, parce qu'on nous a dit la naissance du parc national des Calanques, je parle des politiques là, sera l'arrêt des rejets en mer. Alors on a dit bon ben on va essayer d'aider à la construction du parc, et puis un coup que le parc s'est mis en place, on nous vote une autorisation d'une dérogation pour continuer à rejeter. Alors là ça va plus du tout, et en plus quand on est grand-père avec 8 petits-enfants derrière, on n'a pas envie de leur laisser une mer qui ne sera pas digne de ce qu'ils doivent attendre de nous, quoi. Donc on doit se battre pour stopper, sans être les ennemis des ouvriers, des salariés de l'usine de Gardanne. Nous, on ne veut pas que l'usine de Gardanne soit délocalisée ailleurs pour aller polluer ailleurs. On veut que l'usine de Gardanne devienne une usine propre. Aujourd'hui, l'usine de Gardanne est une usine préhistorique. Voilà. Alors on peut bien comprendre, on leur a laissé faire n'importe quoi pendant 50 ans. Là, on est en périphérie du parc national des Calanques. On est, dès qu'on fait quelques centaines de mètres, on rentre dans la zone du parc. Voilà, on arrive à l'île Verte, elle est à 700 mètres de chez nous. L'île Verte est dans le parc national des Calanques, avec des zones de non-prélèvement en vue de protéger le milieu et de favoriser la reproduction des spécimens. Le problème, c'est que dès qu'on va un peu au large, et on avait la chance d'avoir ce canyon, alors un canyon... C'est quoi? Ben c'est un grand trou dans le plateau continental, des grandes falaises sous-marines. La plupart des canyons sur la planète sont classés zones remarquables, sont des zones protégées au patrimoine mondial de l'UNESCO, etc., etc. Et nous, non, nous, en France, on en a fait une poubelle, au lieu de protéger. Parce qu'un canyon, c'est un couloir chargé de nutriments vers le plateau continental. Ben ça, on a flingué cette zone, parce que si je te montre les images sous-marines qu'on a réalisées avec France 3, ben ça se dispense de commentaires, quoi.
Ça ressemble à quoi au fond, alors?
C'est lunaire, c'est de la boue. Et même qu'aujourd'hui, ils ont arrêté de rejeter les boues rouges proprement dit, c'est-à-dire ils retiennent la matière solide, il n'y a plus que la matière liquide, mais qui est chargée de métaux lourds, c'est peut-être même pire. Ben, on a toujours cette flocculence, ça va très très loin. Les traces de boue de dehors Martigues à dehors Toulon, la plaine abyssale est recouverte. Moi, je ne suis pas allé longtemps à l'école, mais j'ai quand même appris à compter. L'industriel nous raconte que c'est 20 millions de tonnes. Et avoue que le débit, c'est 270 mètres cubes par heure. Quand on fait 270 mètres cubes par heure multiplié par 24 heures, ça fait 6480 tonnes par jour. Et multiplié par le nombre de mois et le nombre d'années, moi j'arrive à 128 980 000 tonnes. Mais l'industriel, lui, il enlève l'eau. il met que le poids de... Mais ben nous, ce qui nous a pourri, c'est cette boue, ce liquide qui est sorti quand en Hongrie, les canalisations ont explosé, qu'il y a eu même des morts et qu'il y a eu des déversements, qu'il y a eu des gens qui ont été brûlés par les métaux lourds et par les saletés qu'il y avait à l'intérieur de ce produit. C'était exactement le même produit.
En Hongrie, 1 million de mètres cubes de boue rouge toxique qui se sont échappés de leurs réservoirs. Les pays limitrophes baignés par le Danube peuvent être touchés. Nous essaierons d'évaluer les conséquences écologiques de cette catastrophe.
Voilà. Alors, moi, je suis obligé de rendre un petit peu hommage aux Corses, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que, sans cautionner la violence, hein, sans cautionner la violence, mais le premier attentat du FLNC, c'est quand même les Bourrouges. C'est du problème des Bourrouges qu'est né le mouvement nationaliste, qui malheureusement, après, a dérivé. Mais Alain Bombard l'avait dit, dès qu'on a autorisé l'usine de Gardanne à rejeter dans le canyon de Cassidagne, comment pourra-t-on interdire à un industriel de rejeter en mer, alors qu'on vient de créer un précédent en autorisant un autre industriel? Et il ne s'était pas du tout trompé, parce que moins de 2 ans après, la Monte Edison en Italie, qui faisait du traitement d'alumine, au même titre que l'usine de Gardanne, vu qu'on venait de donner une autorisation en France, ils ont dit « pourquoi pas ?» Et les Corses, ils ont dit « nous, ils vont nous flinguer les langoustes et tout », ils avaient raison. Et ils sont intervenus, le bateau a coulé entre la Corse et le continent, la Monte Edison, ils ont pris leur clic et leur claque, ils se sont barrés. Donc, le combat continue, je l'ai dit à la direction de Alteo, qui sont des gens très courtois, avec qui on se respecte, je ne vous lâcherai jamais. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne vous lâcherai jamais. Ma qualité de vie, elle est à la mer, sur ma zone de travail, avec mes chiens, mes potes et mon métier. Et c'est en aucun cas l'argent qui me fera dévier de cette ligne de conduite. Et on est quelques-uns comme ça, qui espérons qu'un jour, les pouvoirs publics fassent preuve de bon sens.
Merci Gérard Carodano. Bah, je vais repartir à l'autre bout là, de la tuyauterie du tuyau. Là, hein. Je vais remonter à Gardanne.
Okay, à la gare. Ouais. Je vais te mener en bateau parce qu'on va moins se faire chier. Le petit bateau, on traverse d'à côté. De toute façon, moi, Antoine, je fais tout en bateau. Vas-y, je viens là. Ah ouais. Okay, mes chiens, ils sont enfermés dans la voiture. Je...
Ah, ils vont monter à bord. Oh.
Dadou ! Eux, ils sont malades, ils ne vont pas la mer. Moi, j'ai travaillé dans le canyon de Cassidagne pendant des années. On pêchait des congres, ils étaient gros comme des pneus de tracteur. On prenait des mérous gris, des polyprions, on prenait... On prenait de tout, des langoustes rouges en bordure, des langoustes blanches au fond. Et aujourd'hui c'est un cimetière, quoi. Ils en ont fait un cimetière de cette ouais, zone.
Ouais. C'est beau là, hein, c'est joli. Hein. Ah, ça, là, il y a les ponts transbordeurs, massif des Calanques derrière.
Là,
hein, c'est
là,
ça.
Derrière, là, on a quelque chose de magnifique à la Ciotat. C'est quasiment les plus hautes falaises d'Europe qu'il y a derrière qui vont sur Cassis. Une cité balnéaire qui est magnifique et qui reçoit des millions de personnes chaque année. Et Madame le maire de Cassis, ben, elle dit il ne faut pas me parler des Bourrouges parce que ça fait fuir les touristes. Eh ouais, mais il faut savoir se positionner. C'est pas très écolo de la part du premier magistrat d'une ville, quoi. Tout ça, c'est pas bon. Il faut tout stopper. Là. Basta. Il y a ta gare routière, tu vois, elle est là, ouais. Toutes les demi-heures. Là.
Merci Gérard.
Ciao. Allez, on repart.
C'est une sale histoire qu'on va vous raconter. Dans ce décor, l'un des plus beaux de Méditerranée. Une histoire de mensonges et de dissimulation.
Allô, oui ?
Bonjour, c'est Amélie Ranger.
Oui, bonjour. Oui,
excusez-moi, on a un petit peu de retard.
C'est pas grave. En attendant, j'ai regardé un petit peu ce documentaire de Thalassa sur les Bourrouges.
Ah, c'est le meilleur. N'est-ce pas ? Vous pouviez pas mieux tomber.
Ah bon ?
C'est le plus partisan, donc c'est chouette.
D'accord.
Bah, écoutez, je laisse la main à Éric Duchesne.
Alors, Éric Duchesne, vous êtes directeur des opérations, hein, c'est ça, du site Alteo ? Vous pouvez m'expliquer un peu
Je suis directeur industriel et développement durable d'Alteo, plus exactement. Alteo, c'est, enfin, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter vraiment, hein, donc c'est un des leaders mondiaux des alumines de spécialité. Fabrique environ 500 000 tonnes d'alumine qui vont dans des applications très particulières qu'on trouve dans les produits de tous les jours, hein, puisque ça va du carrelage en passant par tout ce qui est céramique plus ou moins technique. Donc vous allez retrouver ça dans les catalyseurs sur les véhicules. Et puis ensuite, vous avez toute une partie industrielle de filtration dans l'industrie. Vous allez avoir ensuite des produits comme le verre pour les écrans plats. Et on développe aussi des alumines là qui entrent complètement dans la transition énergétique, puisque voilà, on développe au niveau R&D là dans notre laboratoire des produits qui vont permettre de baisser les coûts et améliorer le fonctionnement des batteries des véhicules électriques.
D'accord, bah tout ça c'est très vertueux, c'est très bien, mais bon, le problème c'est que cette industrie donc génère beaucoup de déchets, quoi. Hein. C'est ça qui nous intéresse nous en ce moment, la question notamment des boues rouges. Moi, je voulais justement parler avec vous au sujet de ce processus donc d'économie circulaire que vous avez mis en place et que vous me parliez un peu de la boue saline, voilà.
Alors tout d'abord, je vais quand même préciser qu'il n'y a plus de boue rouge. On rejette plus de boue rouge puisqu'on a investi plus de 20 millions d'euros ces dernières années pour séparer effectivement les résidus de bauxite qui sont une poudre, c'est de la terre, c'est voilà, c'est une virulent et sec, et l'eau voilà qui est aujourd'hui qu'on continue à rejeter en mer effectivement. Et objectivement notre usine est la meilleure du monde. D'un point de vue environnemental, c'est la meilleure du monde. C'est pas la plus grosse, c'est pas la plus petite non plus, mais d'un point de vue environnemental, il n'y a pas deux usines au monde qui soient aussi performantes que la nôtre.
Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie, enfin je vous félicite.
Bon, merci, eh ben, c'est parfait. Bon.
Allô, allô.
Oui, allô. Maxime, pareil.
Maxime Combe, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, me voilà rassuré. Et en plus, le tribunal administratif de Marseille, le 20 juillet 2018, a réformé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015. Souvenez-vous, c'était l'arbitrage d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et de l'industrie, pour ramener la durée de la dérogation accordée en ce qui concerne les valeurs limites d'émissions de l'arsenic, de l'aluminium, du fer, du pH, du DB05 et du TCO au 31 décembre 2019, au lieu et place du 31 décembre 2021. C'est rassurant, mais l'usine Alteo a fait appel.
Ouais, c'est pour ça qu'après ton coup de fil avec le directeur, où j'ai un peu l'impression que le monsieur a essayé de te balader, Antoine, j'ai appelé aussitôt Maxime Combe, l'économiste auteur de Sortons de l'âge des fossiles, au Seuil, pour essayer d'y voir un peu plus clair entre la meilleure usine du monde et Make Our Planet Great Again. De quoi tous ces beaux discours sont-ils le symptôme ?
C'est un symptôme, en tout cas ça illustre une situation qu'on observe en de nombreux lieux, en Europe, en France, à travers le monde. On a finalement deux processus parallèles. D'un côté, des multinationales qui n'hésitent pas à verdir leur discours et leur communication extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus vert aujourd'hui qu'une activité polluante d'une multinationale parce que le discours est tellement amoindri et tellement arrangé qu'il va essayer de faire passer pour vert quelque chose qui ne l'est pas. Et de l'autre, en même temps qu'on a ce processus-là, on a, pour la plupart des multinationales ou des lobbies économiques, le déploiement de stratégies de lobbying toujours plus pernicieuses pour poursuivre justement ces activités polluantes aussi longtemps que possible et sans avoir de nouvelles réglementations et de nouvelles règles qui viendraient les entraver.
C'est-à-dire que tout change pour que rien ne change, si j'ai bien compris. Tout change dans le discours pour que les activités puissent se poursuivre en limitant à la marge leurs conséquences.
Tout change, mais pas simplement dans le discours, c'est-à-dire que ça s'accompagne depuis 20 ans autour de cette idée de développement durable, qu'on peut réconcilier l'économie et l'écologie, et qui est très très présente parmi nos élites. François de Rugy, dès sa nomination, a dit qu'il allait réconcilier l'économie et l'écologie, alors que trois jours avant, Nicolas Hulot disait de manière extrêmement claire qu'à un moment donné, il y a une incompatibilité à poursuivre un système économique qui nous amène dans le mur. Et cette idée de conciliation s'accompagne d'un désengagement des États. On voit que toute une série de réglementations, toute une série de règles sont relâchées aujourd'hui, appliquées de manière moins stricte, que finalement, il faut peut-être moins réglementer en matière environnementale que de donner plus de pouvoir et d'initiative. On essaye de faire plus confiance aux acteurs privés pour résoudre les situations auxquelles on est confronté. Quand Emmanuel Macron réunit le One Planet Summit l'année dernière...
Et cette semaine encore, là, en marge des Nations Unies à New York,
ils réunissent Bill Gates, Richard Branson pour financer la lutte contre les dérèglements climatiques, alors que ces derniers sont pris dans des affaires d'évasion fiscale. On confie les clés du camion finalement à des multinationales qui sont partie prenante du problème de la crise écologique, finalement pour ne pas toucher au fondement du système économique tel qu'il existe, à ce que moi j'appelle les soubassements énergétiques de notre formidable machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale. Dès qu'on rentre dans le dur, dès qu'on s'attaque à des choses un peu sérieuses, comme par exemple les règles du commerce international, alors là, non, surtout pas. faisons plutôt confiance au secteur économique. Il va se transformer lui-même, il va prendre des initiatives volontaristes, des codes de bonne conduite. Et donc, du coup, on a un désengagement de l'État et une capacité des multinationales, finalement, à prendre toujours plus de pouvoir sur nos vies et notre avenir. Et ça, c'est typiquement l'idéologie qui anime nos élites aujourd'hui et qui s'incarne à merveille dans le macronisme en marche tel qu'exprimé à travers la présidence d'Emmanuel Macron.
Make our planet great again.
On a entendu l'enthousiasme de Emmanuel Macron,
will not give up the fight.
Le président français en héros de la lutte contre le changement climatique.
Emmanuel Macron va donc recevoir le titre de champion de la Terre et du climat aux Nations Unies aujourd'hui.
Donc Emmanuel Macron, effectivement, s'est transformé en un champion du slogan.
Make our planet great again.
Mais finalement, il reste dans le discours. Et quand on regarde le bilan de ce qui est fait en France...
La France est-elle championne de la Terre et du climat?
Non, interdiction du glyphosate, possibilité et maintien des accords de libre-échange et des décisions à la peine de toutes sortes.
En la matière, nous figurons parmi les cancres de l'Europe.
On a en fait un président de la République qui reste un cancre dans une classe de cancres. Et peut-être que c'est le meilleur des cancres, mais ça reste un cancre.
Tous les voyants sont au rouge.
Make our planet.
Prochain arrêt, Gardanne.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Bonjour, bonjour, enchanté. Aline, vous comme m'avez ça... donné rendez-vous ici, hein, sur,
oui,
la passerelle
de la
gare, tant qu'à faire.
Je trouve que c'est... Vous avez une vue d'ensemble de l'usine, là. C'est qu'une petite partie, là. Vous avez simplement la petite partie rouge avec les voies de chemin de fer, vous voyez, avec les wagons, là, qui arrivent. Il y a 3 trains par jour qui ramènent la bauxite du port autonome de Marseille. Et le quartier de Péchiné que j'habitais, parce que mon papa travaillait à Péchiné jusqu'à sa retraite, hein, dont il n'a pas trop profité puisqu'il est... Il est parti d'un cancer généralisé qui a commencé dans la région du cœur, œsophage, etc. quoi. Poumons et tout le reste, voilà. 75 ans. Vous pouvez voir, au passage, on voit dans du rouge, là, ce sont les tuyaux qui montent, les beaux rouges là-haut, quoi, qui sont transformés par le filtre presse. 2 filtres presse là-haut, 1 filtre presse ici, depuis pas longtemps, quoi, voilà.
Alors j'ai appelé monsieur le directeur donc, de l'usine pour visiter ces filtres presse parce que bon, c'est vendu comme vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, qui transforme ces déchets, quelque chose qui a une valeur inestimable, hein, qui est la bauxaline.
Mais en fait, ce sont des boues rouges compressées avec tous les métaux qui ne partent plus à la mer, sont restockés dans ces boues et restockés sur le site de Mangegarde. En fait, on n'a fait que déplacer le problème de la mer à la terre. Nous avons les vallons saturés en haut d'une colline. Et si on continue à stocker 300 000, même jusqu'à 500 000, il nous a dit l'autre fois en commission, jusqu'à 500 000 tonnes de résidus par an, ça ne va plus être des vallons, ça va être des montagnes rouges, voilà. Mmh. Donc on se fait énormément de soucis pour cela.
Alteo, propriété privée, site du Mangegarde. Gary avec 2 R, Gary, installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE. Ça veut dire quoi, Mangegarde?
En provençal, le Gary, c'est le rat. Et la Mangegarde, c'est la couleuvre verte de Montpellier qui mange les rats, quoi. Donc la Mangegarde de Bourg-Bel-Air, elle est devenue rouge, elle est plus verte. Voilà.
Notre usine, d'un point de vue environnemental, c'est la meilleure du monde.
Ce que vous dites, Maxime Combes, c'est que d'un côté, il y a le lobbying intense pour faire plus de place aux acteurs dans la décision des normes environnementales et écologiques. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le greenwashing.
Le greenwashing est partie intégrante d'une stratégie qui consiste effectivement à accroître le pouvoir de négociation et le pouvoir des multinationales dans la décision qui concerne l'avenir de nos sociétés. Et ce qu'on constate dans la réalité, c'est qu'on a des multinationales qui verdissent leur discours, mais qui, derrière des portes closes, en menant du lobbying, essayent d'éviter des réglementations plus poussées, plus abouties et plus ambitieuses. Par exemple, la semaine dernière, le bureau d'investigation de Greenpeace Royaume-Uni a mis en exergue un document issu de Business Europe, la confédération des MEDEF européens.
Avec M. Gattaz à sa tête.
Voilà, M. Gattaz en a pris la direction récemment, et ce document, il est extrêmement explicite, et il propose que le business européen fasse pression et fasse du lobbying au niveau de Bruxelles pour éviter que la politique climatique européenne soit plus ambitieuse. Donc on a là, effectivement, des intérêts privés qui se présentent comme garants de l'intérêt général à travers leur communication, qui, en fait, derrière porte-close, défendent leurs intérêts privés stricto sensu au détriment de l'intérêt général, qui est la lutte contre les dérèglements climatiques. On a un scénario qui est de dire, mais finalement, le capitalisme va se verdir de lui-même, laissons le libéralisme et le productivisme intégrer la question écologique en son sein, et ça sera résolu. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, le macronisme, et on voit bien que ça échoue, et Nicolas Hulot l'a montré de manière extrêmement claire le jour de sa démission, qu'une politique ambitieuse en matière climatique ou de préservation de la biodiversité ou de lutte contre les pollutions n'est pas compatible avec la poursuite des politiques productivistes et libérales, et que effectivement, il faut que nous prenions conscience collectivement, en tant que population, en tant qu'organisation de la société civile, qu'il n'est pas possible d'en rester à une stratégie des petits pas, ces petits pas n'allant pas assez vite et par ailleurs étant généralement accompagnés de grands renoncements. Et ces grands renoncements entravent aujourd'hui la possibilité de résoudre les défis auxquels on est confronté.
Maxime Boucombe, merci beaucoup.
Bonne journée, salut, ciao.
Merci.
Et le concert manifeste Colère Rouge contre les pollutions de Bourrouge organisé par l'association ZEA, c'est à 18h à la Seine-sur-Mer avec Gary du Massilation System, Mousse et Hakim, etc. et des prises de parole.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. N'hésitez pas à nous laisser des messages et on se retrouve samedi prochain à 16h.